Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kairo.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. C'est le dernier épisode de la saison et on va parler d'Ousmane Dembélé. L'international français poursuit l'aventure avec le FC Barcelone. Après des mois de négociations, Dembélé a finalement choisi de rester en Catalogne. On va en parler évidemment, on va surtout revenir sur sa saison qui avait mal commencé avec une énième blessure mais qui s'est très bien terminée. Ousmane Dembélé, l'un des symboles du renouveau barcelonais, transfiguré depuis l'arrivée de Xavi sur le banc. Il a terminé meilleur passeur de Liga. On va voir comment le jeu du français a évolué, comment il a travaillé avec son nouvel entraîneur et quelle place il occupe au Barça aujourd'hui. Et puis, on parlera aussi de son avenir en bleu. Dembélé peut-il retrouver sa place en équipe de France? Peut-il espérer aller au Qatar? Pour répondre à toutes ces questions, Damien Degore est là aujourd'hui, l'un des reporters en charge de l'équipe de France et qui suit attentivement le parcours d'Ousmane Dembélé. Bonjour Damien.
Bonjour Marie-Amélie.
Et puis nous sommes en ligne avec Tracy Rodrigo, notre correspondante à Barcelone. Bonjour Tracy.
Bonjour Marie, bonjour Damien.
Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. C'est la fin d'un long feuilleton qui a rythmé toute la saison. Ousmane Dembélé reste au Barça. Il a signé un nouveau contrat 5 ans après son arrivée pour 140 millions d'euros environ. À 25 ans, l'ailier français semble être à un moment charnière de sa carrière. Après des années plombées par les blessures, il a rayonné lors de la deuxième partie de saison. Grand artisan de la deuxième place obtenue par le Barça en Liga. Tracy, selon toi, est-ce que Dembélé a fait un choix judicieux en restant au FC Barcelone ?
Dans l'optique de la Coupe du Monde, ça, Damien en dira plus que moi, mais dans l'optique donc de la Coupe du Monde et dans la progression qu'il connaît sous Xavi, bien entendu, il a fait le meilleur choix. C'est son choix depuis le départ. Alors ça a été très long, ça a duré des mois et des mois, mais ça a toujours été son option numéro un. On reviendra sur les circonstances, mais effectivement pas à n'importe quel prix, mais c'était quand même son choix numéro un. Il y a vraiment un lien qui s'est créé pour le coup avec Xavi. Xavi l'aime énormément, on va en reparler aussi, mais il a relancé les négociations à de nombreuses reprises. Xavi, c'est lui qui a été la clé de cette prolongation qui est en fait un nouveau contrat. Et Dembélé, pour le coup, c'est pareil. Il y a vraiment un lien qui s'est créé avec Xavi. Il a peut-être trouvé l'entraîneur depuis Tourelle qui lui donne le plus d'affection et avec qui il a envie d'évoluer et avec qui il sent qu'il pourrait peut-être éventuellement passer un cap.
Alors, Dembélé, il avait commencé la saison blessé à la cuisse droite. Il avait quitté les Bleus au début de l'Euro en juin. Et quand il est revenu fin octobre, c'était en Ligue des Champions face au Dynamo Kiev, il s'est à nouveau blessé, cette fois à la cuisse gauche. Et là, il n'est revenu que fin novembre. Damien, à quel moment, selon toi, Dembélé a vraiment lancé sa saison ?
Je pense qu'à vraiment à partir du mois de janvier, dont Xavi était déjà en poste, il est arrivé en novembre. Mais je pense que c'est pas forcément le match le plus important de la saison du Barça, mais le premier match de l'année civile 2021 contre Linares en Coupe du Roi, un match qui était diffusé sur la chaîne L'Équipe d'ailleurs, l'entrée décisive de Dembélé a montré à quel point ce joueur qui refusait de prolonger à Barcelone, qui avait manifesté quelques envies d'ailleurs, du bluff ou pas, je ne sais pas, mais qui pour lequel certains supporters estimaient qu'il avait plus sa place en Catalogne. Ce match a montré que c'était un joueur incroyable, capable de différences formidables, capable de faire fi d'un contexte qui n'était pas forcément porteur, et capable de répondre à l'amour que lui porte justement son entraîneur et que décrivait Tracy tout à l'heure. Et à partir de ce match-là, je pense pas que Tracy me contredise, il a plutôt enchaîné. Pas forcément que des bonnes performances, mais il a enchaîné les matchs. Et à l'échelle de la carrière de Dembélé, enchaîner les matchs, c'était déjà quelque chose de considérable. Et ce match-là l'a vraiment lancé dans sa saison de club.
Ouais, parce qu'il a une fois qu'il est revenu, après il a joué pratiquement tous les matchs de la deuxième moitié de saison. Tracy.
Et puis il faut dire aussi que ce que dit Damien est vrai. Et il faut dire aussi que il y avait cette peur, si vous vous en souvenez, que Dembélé soit sifflé après tout ce qui avait pu se passer au mercato. Voilà, la mise Matteo Alemany qui explique qu'il va devoir partir vu qu'il ne veut pas prolonger. Il est écarté, Xavi ne veut pas qu'il reste écarté, donc il revient. Les supporters sont un petit peu en colère, donc bien entendu au départ il y a des sifflets. Et finalement, il va retourner l'opinion assez rapidement, assez facilement, parce qu'il va y avoir des bonnes prestations. Il va mettre Adama Traoré, parce qu'on parle de la soi-disant concurrence qu'il va y avoir entre Ousmane Dembélé et Adama Traoré. Finalement, ça ne dure pas très longtemps. Ousmane Dembélé, bien entendu, lui est supérieur. Donc, finalement, il retourne assez rapidement l'opinion du Camp Nou, qui finalement finit par l'applaudir et même à le réclamer. Parce que, comme Damien le dit, l'histoire d'amour entre le Barça et Dembélé est très compliquée. Il a très peu joué. Il est très critiqué par rapport à ces tergiversations à chaque fois qui durent. Mais il y a aussi toujours ce petit sentiment de se dire « Ah, on veut que ce soit Dembélé qui rentre parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. » Et ça reste toujours actuellement. Je parlais avec des supporters catalans qui me disaient ça. Oui, d'un côté, on est peut-être un peu déçu qu'il reste parce qu'on aimerait qu'il ait plus envie de rester, qu'il accepte tout ce que lui propose le club. Même si on va en parler, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais d'un autre côté, le joueur, on sait qu'il peut être capable de choses extraordinaires sur le terrain. C'est vraiment un je t'aime moi non plus Dembélé et les supporters du Barça.
Et justement, Damien, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs quel genre de joueur est Ousmane Dembélé ? Pourquoi il est si singulier en fait ?
Parce que c'est un joueur qui peut manquer justement 50 dribbles. Il peut en réussir un 51e qui va être incroyable et il ne doute jamais. Il a une capacité, une qualité technique que peu de joueurs ont en France. Techniquement, il est, je parle vraiment dans le maniement du ballon, dans le jeu sur les petits espaces. Pour moi, il n'a pas beaucoup d'équivalent. Benzema est au-dessus, mais c'est à peu près tout. Vraiment, du point de vue technique, il manque d'efficacité, il manque de justesse dans le dernier jeu.
C'est ce que Xavi dit, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Mais il n'a pas d'équivalent sur sa capacité à éliminer sur les deux, trois premiers appuis, sur quand il enchaîne les dribbles courts, il est assez formidable. Alors, oui, il doit gagner dans le dernier geste, dans la lucidité, peut-être un peu dans l'anticipation de ce qui va se produire. Il n'anticipe peut-être pas assez l'action suivante. Je crois que c'est quelque chose sur lequel il a travaillé beaucoup avec Xavi. Mais c'est un joueur avec un talent technique incroyable. Et je crois vraiment, j'insiste là-dessus, je suis pas certain qu'il ait beaucoup d'équivalent en France aujourd'hui.
Et il est très rapide aussi, il a une pointe de vitesse à 34 km/h, ce qui n'est pas...
Oui, alors... Il n'est pas hyper puissant, c'est pas un dragster comme peut l'être Kylian Mbappé, comme peut l'être Marcus Rashford, voilà. Il a une vitesse qui peut lui servir dans les appels, dans la profondeur et tout, mais je trouve que c'est plus sa vitesse d'exécution des dribbles, d'enchaînement des dribbles qui est assez hallucinante.
Et Tracy, il occupe quel rôle dans l'organisation du Barça, Dembélé ? Qu'est-ce que Xavi lui demande de faire précisément ?
Alors, cette année, il a joué pratiquement toujours à droite. On sait qu'il peut jouer, des deux côtés. Après, ça bouge beaucoup avec Xavi. Les positions ne sont pas vraiment fixes, ça bouge beaucoup. Ce qu'on a vu cette année, contrairement à peut-être aux années précédentes, et ce qui a peut-être beaucoup manqué à Dembélé lorsqu'il pouvait jouer, c'est d'avoir un latéral derrière lui avec qui ils se comprennent. C'est vrai que on a souvent eu au Barça ces dernières années Sergi Roberto en latéral droit, et bon, il faut le dire, ça c'est pas un latéral de formation, Sergi Roberto, et avec Dembélé ça collait pas. Ça collait pas, il se comprenait pas. Sergio Roberto avait du mal à lire de façon globale quand est-ce qu'il fallait monter, quand est-ce qu'il ne fallait pas. Et c'est vrai que là, pour le coup, avec Daniel Alves cette saison qui a été pour lui, pour le coup, autant sûr que que hors terrain a été un petit peu un grand frère entre guillemets pour le. Il a beaucoup soutenu Daniel Alves, Ousmane Dembélé, et du coup, pour le coup, eux, là, on a vu deux joueurs qui parlaient le même football. Daniel Alves est habitué à ce que demande Xavi. Et du coup, là, on a vu enfin un Dembélé qui avait un joueur avec qui combiner. Ça a changé beaucoup de choses. On a vu un Dembélé aussi qu'on a peu vu. C'est un Dembélé qui a beaucoup eu d'activité dans le repli défensif. Mmh. Ça, Xavi insiste beaucoup là-dessus. Et on a vu, pour le coup, un Dembélé qu'on avait quasiment jamais vu à Barcelone. Un Dembélé qui revient défendre. Un Dembélé qui, dès qu'il perd le ballon, va au pressing, ce qui est un petit peu la règle numéro un sous Xavi. Et on a même vu, et ça, pour le coup, ça a étonné tout le monde en Catalogne, on a même eu des photos, des vidéos d'un Dembélé même qui harangue ses coéquipiers. Au moment où le Barça est mené, on voit un Dembélé qui tape dans les mains. Allez les gars, on continue. Alors ça, pour le coup, il y a souvent la blague sur ah mais est-ce que Dembélé même parle espagnol pour haranguer ses coéquipiers. C'est souvent la blague parce que c'est vrai qu'on sait que l'espagnol a été un petit peu compliqué au départ. Mais on a vraiment l'impression d'avoir un tout autre Dembélé sous Xavi. La question, c'est de savoir est-ce que ça va continuer à progresser, parce qu'on sait que la concurrence va être plus ardue cette année. Rafinha est arrivé aussi, et donc toute la question est là.
Et alors, Damien, selon toi, sur quel aspect il a le plus progressé cette saison ?
Sur les six derniers mois, je pense que c'est dans sa capacité à enchaîner les matchs. Enfin, Xavi va pas apprendre à Dembélé à dribbler. Ça, on est à peu près tous d'accord. Mais il arrive à lui faire comprendre quand est-ce qu'il doit faire du repli, comme l'expliquait Tracy, et quand est-ce qu'il doit pas le faire. C'est-à-dire que faire du repli défensif, c'est important, mais on le fait pas toujours. Il faut bien sentir le moment où il faut le faire et le moment où il y a peut-être pas besoin de le faire parce que l'équipe est en place. Et je pense que dans sa compréhension du jeu, il a le plus progressé. Je trouve qu'il doit encore progresser dans son efficacité, même si Xavi le dit souvent, un joueur n'est pas que décisif parce qu'il marque un but ou parce qu'il fait la dernière passe. Il y a aussi la première différence qu'il peut faire par un dribble, par une passe, et ça, Dembélé le fait très bien. Mais ses progrès, c'est physiquement et dans la compréhension du jeu, dans sa capacité aussi à enchaîner les efforts.
Alors, d'un point de vue statistique, tu le disais, bon là, il a marqué que deux buts cette saison, mais il a délivré 13 passes décisives et il a donc fini meilleur passeur de Liga devant Karim Benzema. Mmh. Tracy, comment tu l'expliques ? Est-ce qu'il y a eu un travail spécifique, par exemple, avec Xavi là-dessus ?
Comme disait Damien, l'une des grosses progressions de Dembélé, c'est la compréhension du jeu. On a vraiment l'impression d'un Dembélé plus réfléchi, qui partait peut-être parfois la tête dans le guidon, sans savoir vraiment ce qu'il allait faire. Un petit peu le je crochète, je frappe, l'habituel mouvement. Et là, on a bien sûr un Dembélé qui a beaucoup plus de variété et qui réfléchit plus et qui donc cherche toujours la solution plus collective. Ça aussi, c'est une marque de Xavi, de toujours chercher la solution collective, et peut-être même parfois au détriment de ses stats, puisque certes il y a les 13 passes décisives, mais comme tu l'as dit, il y a aussi uniquement les deux buts. Mais je pense que c'est un choix de Xavi d'avoir beaucoup travaillé cet aspect-là du jeu de Dembélé, d'être vraiment dans la recherche de la solution collective, et ensuite viendra, comme disait Damien, peut-être l'efficacité plus tard. Mais je pense que le point numéro un sur lequel Xavi voulait travailler, c'est ça, et ça explique les 13 passes décisives, et pas contre n'importe qui. C'est des passes décisives importantes. Il y en a eu contre le Real Madrid, il y en a eu contre Séville, il y en a eu contre l'Athletic. Il les a enchaînés de manière assez impressionnante d'ailleurs, les passes décisives. Et donc forcément, je pense que cette recherche de la solution collective avant tout, c'est ce qui va permettre après à Dembélé de continuer à progresser, on l'espère, dans les prochaines semaines.
Finalement, on peut dire presque qu'il a épuré son jeu.
Oui, il a épuré son jeu. Il a surtout appris à lire le jeu des autres, je pense. Les déplacements des autres, à utiliser les déplacements des autres dans ses rythmes, comme le dit Tracy, ne plus foncer tête baissée, avoir un ballon pour soi tout seul et puis complètement faire fi de ses coéquipiers. C'est fini, j'ai l'impression.
Mais sans perdre la spontanéité quand même.
Non, mais parce que ça
lui aura
toujours.
Parce que c'est vrai que souvent, on avait vu le cas par exemple au Real Madrid avec Vinicius, que Zidane essayait tellement de faire rentrer dans le collectif que Vinicius, on avait l'impression il s'oubliait. Il oubliait ses qualités premières, qui sont celles du détonateur. Là, pour le coup, Dembélé, il perd pas sa qualité de détonateur, de spontanéité. Et ça, c'est important parce que je pense que Xavi compte beaucoup dessus.
Après, il faut pas non plus oublier une chose. C'est que Dembélé n'est pas non plus, n'évolue pas non plus dans un Barça qui écrase tout, comme c'était le cas par le passé. Et je crois que c'est là qu'il a une vraie marge de progression. C'est que il faudra que, dès la saison qui vienne, avec un Barça en Ligue des Champions, qu'il arrive à répéter face à des clubs comme Chelsea, je dis n'importe quoi, la Juve, le Bayern, Liverpool, le Paris Saint-Germain, ce qu'il a fait contre l'Athletic Bilbao, contre la Real Sociedad, contre l'Atlético de Madrid ou contre Linares, quoi. Voilà, il doit devenir maintenant un joueur majeur d'une équipe majeure. Et c'est pour ça que Xavi va vraiment insister pour qu'il reste, parce qu'il est convaincu qu'il en a le potentiel. Pour le moment, ça n'a jamais été le cas, que ce soit à Dortmund ou à Barcelone. Il a été un joueur important d'une équipe moyenne plus. Allez, voire pas trop mal. Mais le Barça, depuis 2-3 ans, n'est plus l'équipe
ultra dominante qu'on a connue.
Exactement, exactement. Et juste dernier point sur sa relation avec Xavi, mais l'amour que lui porte Xavi, on a tous besoin d'amour dans l'absolu, mais des joueurs de foot et des joueurs de talent incomparables comme Dembélé, un peu plus que d'autres. Et quand le dirigeant barcelonais Alemany dit Dembélé doit partir, mais si c'est pas Xavi qui est l'entraîneur, si c'est Van Gaal, si c'est je ne sais de qui était là avant le néerlandais
Ronald Koeman,
si c'est Ronald Koeman, si c'est n'importe quel autre entraîneur qui n'a pas l'historique de Xavi à Barcelone, Dembélé il est plus à Barcelone aujourd'hui.
Et alors justement, Tracy, pour entrer plus dans les détails, qu'est-ce que Xavi a fait ? Enfin, comment il a œuvré pour faire rester Ousmane Dembélé ?
Quand Matteo Alemany, donc le directeur du football, veut écarter Dembélé, Xavi n'accepte pas vraiment cette décision. Et comme le disait Damien, ce qui est important, c'est le poids de Xavi. Même si, par exemple, Ronald Koeman avant est une légende absolue du Barça, Ronald Koeman n'a pas le même poids que Xavi, parce que déjà, Ronald Koeman n'était pas un souhait de Joan Laporta, donc forcément, ce que pouvait penser Koeman, pour faire simple, Laporta, il s'en foutait un petit peu, hein. Alors que là, avec Xavi, c'est différent. Xavi était un choix de Laporta, et Laporta a dit à Xavi qu'il aurait toutes les clés en main pour choisir son équipe et pour prendre les décisions. Même par la suite, Alemany n'était pas convaincu du bien fondé de garder Dembélé. C'est vraiment un dossier de Xavi. C'est vraiment Xavi qui a insisté. Et lorsque les négociations, c'est arrivé plusieurs fois, étaient à un point de non-retour, lorsque le Barça ne voulait pas mettre un peu plus la main à la poche au niveau des bonus, c'est Xavi qui a demandé à Laporta de faire un effort. C'est Xavi qui a demandé à Laporta de trouver des solutions. Lors des 4 dernières réunions, il a fallu attendre que Xavi soit là pour que les choses avancent. Donc c'est totalement un dossier que Xavi a réglé entre guillemets.
Mais là on parle d'un dossier où dans lequel les négociations ont commencé cet hiver et se sont donc achevées là récemment. Ça a été très long quoi.
Bah, les négociations ont duré mais elles ont même commencé avant cet hiver parce qu'il y avait déjà des négociations l'été dernier
pour essayer en fin de le convaincre.
Alors peut-être qu'ils sont pas repartis sur les mêmes bases de négociation, mais les interlocuteurs ont changé. Confère l'arrivée de Xavi. La situation économique du Barça, je trouve, a évolué aussi parce que, rappelez-vous, quand Messi signe au PSG, le Barça n'avait soi-disant plus d'argent. Il ne pouvait plus enregistrer de joueurs, sa masse salariale allait exploser. Entre-temps, je rappelle juste que Ferran Torres est arrivé pour un peu plus de 50 millions d'euros. D'autres joueurs ont signé et d'autres joueurs vont signer cet été avec Rafinha. Donc, la situation économique de Barcelone n'est plus la même. Elle n'est plus non plus ce qu'elle pouvait être au moment où le Barça régnait sur l'Europe, mais quand même, la marge de négociation était devenue un peu plus importante. Sauf qu'on arrive à un moment où on est le 1er janvier, fin de contrat pour Dembélé au 30 juin, il est libre de s'engager où il veut. Donc la menace est aussi différente. Les clubs ne sont plus dans l'obligation de contacter, en tout cas de dire à Barcelone ou de demander à Barcelone l'autorisation de négocier avec Dembélé. Ils sont juste dans l'obligation réglementaire de prévenir, mais ils n'ont pas demandé l'autorisation. Et Dembélé peut signer où il veut. Si Leonardo était resté au Paris Saint-Germain, connaissant un peu la méthodologie de Leonardo ces derniers temps et avec les opportunités de marché, c'était une opportunité qu'il avait en vue et il avait eu quelques discussions au mois de mars-avril avec Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé. C'est pas allé plus loin. Mais quand même, si Léo était resté, peut-être que Dembélé sera à Paris aujourd'hui. Il faut pas l'oublier.
Il y a eu des contacts réels avec Paris, avec Chelsea.
Chelsea a fait une offre.
Les deux gros clubs sur le coup.
Alors, c'est surtout Chelsea, hein. C'est surtout Chelsea aujourd'hui qui était une vraie menace pour le Paris Saint-Germain. Il avait deux offres Dembélé, une du Barça, une de Chelsea. On n'a jamais su à combien se portait. Moi, en tout cas, je n'ai jamais su à combien s'élevait l'offre salariale de Chelsea. Mais je crois savoir que Dembélé a pu être tenté, hésitant en tout cas, et séduit par l'idée de retrouver Thomas Tuchel, avec qui il a entretenu une super relation à son époque Dortmund. Mais il se plaît vraiment à Barcelone.
Ouais.
Il se plaît vraiment à Barcelone.
Et Tracy, qu'est-ce qu'on sait sur son contrat pour l'instant ?
Alors, moi, de mon côté, alors du coup, mes informations sont différentes de celles de Damien, mais bon, ça ne m'étonne pas, puisque c'est les joies du mercato. De mon côté, du coup, moi, on me dit que Dembélé n'a jamais vraiment été tenté par le fait de partir. La phrase qui m'a souvent été dite, c'est « Dembélé veut rester, mais pas à n'importe quel prix ». Voilà, c'est la phrase, voilà. Par contre, je suis d'accord avec Damien, il y a vraiment eu, à un moment donné, le PSG, il y a eu des discussions avec le PSG. Et effectivement, je pense que pour le coup, il y aurait plus eu de possibilités d'aller au PSG si Leonardo était resté que Chelsea. Visiblement, le joueur était sur le joueur. Quand je dis le joueur, je parle du joueur et de son entourage, parce qu'il y a aussi sa vie personnelle, voilà.
Et là, à Barcelone, il a signé pour 2 ans, c'est ça ?
Alors là, il a signé pour 2 ans à Barcelone. C'est plus ou moins, c'est d'ailleurs totalement d'un commun accord entre le club et le joueur. Des deux côtés, on était d'accord pour ce contrat très court. La base salariale qui a fait beaucoup parler en Espagne, puisqu'on annonçait donc que Dembélé aurait un salaire équivalent à celui d'Ansu Fati, donc aux alentours des 6 millions nets par an, puisque le Barça cherche à assainir sa masse salariale. Ce que la direction a déjà beaucoup fait. La masse salariale a énormément baissé, mais le Barça a toujours une masse salariale, pour un exemple, supérieure à celle du Real Madrid, ce qui est quand même assez fou, malgré le départ de Messi, malgré le départ de Griezmann, malgré le départ de Coutinho. Donc, ça en dit long sur les salaires complètement fous qui étaient donnés sous l'ancienne direction de José María Bartomeu, et donc il faut, bien entendu, assainir tout ça. Donc, la presse catalane parlait donc d'un salaire égal à celui d'Ansu Fati, sans bonus, ce qui, moi, pour le coup, m'a paru assez fou, puisqu'on parle quand même d'un champion du monde, et on parle d'un joueur, Ansu Fati, qui lui aussi est assez régulièrement blessé. Donc, bien entendu, pour moi, ça ne me paraissait pas plausible. Donc, si Dembélé avait environ 6 millions de salaire, ce serait une baisse de 40% par rapport à son salaire précédent. Donc, on est apparemment sur une baisse qui est moins forte que 40%, avec des bonus, contrairement à ce qui a pu être dit au départ dans la presse catalane, des bonus accessibles qui feront que Dembélé aura un salaire plus ou moins égal à ce qu'il avait avant, si tous les bonus, bien entendu, sont remplis.
Ça va forcément être une des têtes d'affiche du projet barcelonais maintenant ?
Je ne sais pas. Oui, c'est un champion du monde, c'est un joueur de grand talent, c'est un attaquant. Donc ça fait quand même pas mal de raisons pour qu'il devienne une tête d'affiche, mais on est quand même à Barcelone, il y a quand même quelques grands joueurs, et notamment des joueurs formés au club, et on sait à quel point, on voit avec Xavi à quel point ça peut compter d'être formé au club. Et Gabi, Ansu Fati, ce sont des joueurs aussi qui seront des têtes d'affiche, et peut-être qu'à un moment donné, le Barça va devenir un club où la tête d'affiche sera l'équipe, comme c'était souvent le cas avec l'époque Iniesta, Xavi, Piqué et compagnie, et bon, il y avait Messi, mais il n'aura jamais d'équivalent aujourd'hui. Donc voilà, ce sera l'une des têtes d'affiche, oui, mais plus parce que c'est un attaquant que parce qu'il a signé un gros contrat.
On va parler des Bleus pour terminer. 4 buts, 27 sélections en équipe de France pour Ousmane Dembélé. La dernière, il y a plus d'un an. Damien, lors des derniers rassemblements de l'équipe de France, comment Didier Deschamps a justifié la non-convocation d'Ousmane Dembélé ?
Il n'a pas eu à la justifier parce que de toute façon, il était blessé la plupart du temps. Et il n'avait pas assez joué.
En juin et en mars dernier, il était blessé.
En mars, il n'avait pas assez joué encore pour être rappelé. Et en juin, Didier Deschamps avait un groupe qui lui donnait entièrement satisfaction. Et je ne crois pas me rappeler qu'il y ait eu un débat vraiment autour de l'absence de, d'Ousmane Dembélé.
Il risque d'y en avoir un à la rentrée, peut-être.
Il pourrait y en avoir un en septembre, peut-être un peu plus en novembre encore. Et encore, peut-être que Dembélé y sera, puisque il y a une possibilité pour les sélectionneurs, il y aura une possibilité pour les sélectionneurs de convoquer non pas 23 joueurs, mais 26 joueurs. Ils ne seront pas dans l'obligation de convoquer 26, ils pourront en convoquer 23, ils pourront en convoquer 24, 25 ou 26. Ça fait quand même un peu une ou deux places en plus pour un attaquant potentiel, donc pour Dembélé. Deuxième point, il ne faut pas oublier que les dernières apparitions de Dembélé en équipe de France n'ont pas été génialissimes. Sa blessure contre la Hongrie à l'Euro 2021, elle est quand même pas anodine. C'est une blessure musculaire, c'est pas traumatique, c'est pas suite à un duel. Et les blessures musculaires, il en a eu un peu trop souvent dans sa carrière pour que ça relève du hasard.
Donc là, une quinzaine depuis son arrivée au Barça, ouais, il a joué aussi, à peine la moitié des matchs.
Un petit peu aussi avec Dortmund. Oui. Mais voilà, donc je pense que là-dessus, il est en train de travailler avec son entourage pour que ça ne se reproduise pas, mais il faut l'espérer. Moi, j'ai une petite anecdote pendant l'Euro à Budapest, enfin, le temps où les Bleus étaient à Budapest, de toute façon, lui, il n'est pas allé à Bucarest, c'était quand même l'un des rares à aller se resservir, pas des fruits, quoi, un peu de viande, un peu sur les buffets, quand d'autres mangeaient équilibré, un mec comme Benzema, il soupèse quasiment tout. Ousmane Dembélé, c'était pas trop le cas, quoi. Il était un peu moins rigoureux sur son alimentation. Donc, est-ce qu'il va, il progresse là-dessus? Oui. Est-ce qu'il faut qu'il progresse encore? Oui. Voilà, donc Deschamps, il n'oublie pas ça. Il n'oublie pas qu'à la Coupe du Monde 2018, Ousmane Dembélé, qui était titulaire quand même lors du premier match contre l'Australie, n'a pas donné satisfaction, pas du tout. Et ensuite, il a quasiment disparu du paysage. Vous avez rappelé 21 sélections, c'est ça? Ou 27 sélections. On s'en souvient pas beaucoup hein, de ces 27 non. sélections. Il y a celle contre l'Angleterre, qui est, je crois, sa première titularisation au Stade de France en 2017. Éventuellement, le dernier match amical avant la Coupe du Monde 2018 contre l'Italie à Lyon. Mais c'est tout. C'est tout. Donc, pour devenir un maillon fort de l'équipe de France, déjà qu'il devienne un maillon fort du Barça, et ensuite, quand il sera rappelé, s'il a la chance d'être rappelé, qu'il montre qu'il peut être indispensable à ce groupe.
Tracy, est-ce qu'il s'est déjà exprimé à propos des Bleus? Enfin, est-ce qu'il s'est exprimé plutôt cette saison à propos des Bleus, Ousmane Dembélé?
Alors, il s'est jamais vraiment, il a jamais vraiment parlé de l'équipe de France, mais je sais que c'est vraiment son ambition d'aller au Qatar. Et je pense d'ailleurs que, comme on en parlait tout à l'heure, l'envie de rester au Barça, c'est aussi ce souhait-là d'aller à la Coupe du Monde au Qatar.
Ouais, c'est ce que je voulais vous demander. Parce qu'il a plus de chances, a priori, d'être titulaire à la rentrée avec le Barça que s'il avait quitté.
Ça, Damien le saura mieux que moi par rapport à ce qui se passe en équipe de France. Mais je pense que lui, le calcul qu'il fait, c'est probablement le bon, c'est de se dire qu'il a plus de chances d'être en équipe de France en restant au Barça, de ne pas avoir à s'acclimater à un autre championnat. Par exemple, s'il était parti à Chelsea, il aurait fallu s'acclimater à l'Angleterre, il aurait fallu gagner sa place. Là, il sait qu'il a un entraîneur qu'il aime beaucoup, que plus ou moins, pour l'instant, il a de l'avance sur Rafinha qui vient d'arriver. Donc, forcément, en restant au Barça, il a plus de chances de jouer, plus de chances donc d'être sélectionné. Après, sur les chances qu'il a par rapport aux autres joueurs, ça, Damien doit savoir mieux que moi. Mais je pense que dans l'optique de jouer la Coupe du Monde, c'était sans doute le meilleur choix.
Ouais, concrètement, qui lui barre la route en équipe de France?
Diaby, Nkunku. Ce sont pas forcément des joueurs qui sont plus forts que lui en termes de potentiel, mais ce sont des joueurs qui s'inscrivent dans un collectif. Didier Deschamps sait qu'avec un joueur comme Moussa Diaby, il aura un remplaçant de devoir. Il sait qu'avec un joueur comme Nkunku, il a un joueur polyvalent, capable d'occuper plusieurs postes. Donc ça fait déjà deux joueurs.
Kingsley Coman aussi.
Kingsley Coman, il est indiscutable. Il fait pas partie des joueurs qui n'iront pas. Il faudrait vraiment qu'il arrive un gros malheur, ce qu'on ne lui souhaite pas, pour qu'il n'y aille pas. Mais en termes de concurrence purement sportive, s'il y a un match sur le terrain à degré de forme physique équivalent, ce sont les deux joueurs qui aujourd'hui sont en concurrence avec Ousmane Dembélé.
Donc en gros, selon toi, il a une chance de partir au Qatar si Didier Deschamps prend un groupe un peu élargi.
Il a une chance, mais même à 23, on ne sait jamais. S'il fait un début de saison stratosphérique avec Barcelone, qu'il enchaîne but sur but en Ligue des Champions, ce sera compliqué de ne pas prendre Ousmane Dembélé, surtout qu'il n'est pas nouveau dans le groupe. Il est connu et il est apprécié. par à peu près tout le monde. Donc là-dessus, il y aura pas de souci. Mais il faut qu'il soit efficace. On en revient toujours au même point, c'est l'efficacité, la régularité, l'efficacité. Il est ni en équipe de France, il n'est ni régulier ni efficace. Et on peut, il y a plein de joueurs hein, qui ont réussi des carrières en club formidables, mais qui, une fois qu'ils mettaient le maillot bleu, avaient beaucoup plus de mal à trouver le même rythme de croisière. Et pour le moment, Ousmane Dembélé, il est si on doit faire une comparaison et sans aucun côté péjoratif, il est plus aujourd'hui en train de suivre le chemin d'Atem Ben Arfa que celui de Karim Benzema, qui étaient sans doute les deux joueurs avec le talent le plus important de la génération 87, mais dont les trajectoires de carrière ont très vite bifurqué.
Très, très différentes.
Et pour le moment, on se rapproche plus de la trajectoire d'Atem que celle de Karim.
Depuis un an environ, Deschamps avait installé à 3-4-3 avant de basculer vers un 4-2-3-1 en Ligue des Nations, là, il y a un mois. Dans quel système il serait le plus à l'aise, Ousmane Dembélé?
Alors, de toute façon, Didier Deschamps, il aura un système à 3 derrière pour aligner Benzema, Griezmann et Mbappé ensemble. Lorsque l'un des trois ne jouera pas, a priori le sélectionneur, là on l'a vu lors du dernier rassemblement, passera à 4 derrière. Et ça correspond davantage, en tout cas en 4-3-3, à un système qui correspond aux qualités d'Ousmane Dembélé. Mais dans un premier temps, je ne vois pas Dembélé arriver en bleu dans la peau d'un titulaire. Il est derrière les trois qu'on peut qualifier de galactiques en équipe de France. Il est assez loin derrière, mais il peut être un remplaçant exceptionnel. Et même dans un système à 3, en 3-4-3, si il faut faire 20 minutes dans un rôle de piston, Tracy l'a dit, il est capable aujourd'hui d'assurer le repli défensif et d'avoir du volume sur 20 minutes. Donc, il peut être très, très utile.
Bon, on va devoir encore un petit peu patienter avant de savoir si Ousmane Dembélé participera à la Coupe du Monde. L'annonce de la liste, c'est fin octobre, début novembre, a priori. Et c'est ainsi que se termine le 42e et dernier épisode de la saison. Merci à tous les deux, Damien Degore et Tracy Rodrigo. Merci aussi à Roland Richard qui va monter cet épisode. Et merci à tous les reporters qui sont venus me voir tout au long de la saison. Voilà, Big Five est en vacances. Moi aussi, du coup, je suis en vacances. Ça devrait pas tarder pour Antoine Bourlon. On se retrouve fin août pour une 4e saison. On sera à 3 mois de la Coupe du Monde, évidemment. Et d'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter certains de nos épisodes, comme Igor Tudor à l'OM, par exemple, Zidane face au Brésil en 2006, ou encore la rivalité entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Vous avez le choix. Merci pour votre fidélité. Je souhaite de magnifiques vacances aux chanceuses et aux chanceux comme moi, et j'envoie plein de courage aux travailleuses et travailleurs. Prenez soin de vous. À bientôt.